Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 17 octobre 2020. Germain, bonsoir.
Bonjour Antoine.
Ça va bien?
Ça va bien. Écoute, bon. un petit mot en commençant, hein, parce que cette semaine,
L'heure est à la fête.
Oui, l'heure est à la fête, parce qu'on a célébré le deuxième anniversaire de la radio à partir de laquelle vous nous entendez, donc Cube Radio. Donc 2 ans, et il reste une part du gâteau pour ceux qui en veulent.
Quand on va avoir 3 ans, oui. Est-ce que Cube... va devoir fêter une année spéciale.
Avis aux employés du marketing de Cube Radio. On a une bonne suggestion ici.
Bon, on commence quelques actualités. On a vu passer d'abord, enfin, devrait-on dire, le prototype.
Ouais.
Toute chose étant relative, du nouveau Acura MDX 2022 qui devrait arriver chez nous quelque part à l'été prochain.
Ouais,
une version quasi de production.
On nous l'a présenté comme une version prototype, là, mais ça va ressembler à 99% au véhicule qu'on va avoir sur les routes. Moteur de base, d'abord le même, hein, donc V6, 3.5 litres, mais la grande nouveauté, c'est l'introduction du nouveau moteur, lui, toujours V6, mais de 3 litres, turbo compressé,
ouais.
Le moteur qui va arriver avant ça dans la TLX type S.
Ouais.
Donc, c'est assez prometteur parce qu'on est à 355 chevaux. Donc, c'est assez puissant. On a vu des photos de l'intérieur, hein, donc ça va être le fameux système d'infodivertissement avec le pavé tactile, le trackpad, comme on dit en anglais. Donc, ça fait pas l'unanimité. En fait, oui, ça fait l'unanimité. Tout le monde déteste ça,
ouais.
Mais on ne l'a pas compris chez Acura. Donc, c'est ce qu'on va retrouver là, sur la planche de bord, ce qui est assez ordinaire. Là.
Mais on peut quand même affirmer que le look est pas mal mieux réussi,
oui,
que le modèle actuel.
Il me paraît plus allongé, peut-être une petite affaire plus trapue.
Tu vois, c'est drôle, j'aurais dit le contraire.
Bon, voilà. Donc, on va attendre de le voir en vrai.
Moi, je n'ai jamais aimé la génération actuelle parce que les portes arrière sont beaucoup plus longues que les portes avant.
Mm-hmm.
Et je trouve que ça lui donne un look un peu fourgonnette que j'ai jamais aimé. Là, on l'a habillé récemment avec une version A-Spec qui est un peu plus dynamique, ça reste un design
partie complètement arrière. Là. Donc, derrière la deuxième rangée de portes qui me paraît, elle, un petit peu plus longue.
Ben,
donc,
il fallait travailler cet aspect-là du MDX parce que c'était un gros handicap par rapport à son petit frère qui le pilote.
Mm-hmm.
Le MDX, beaucoup moins spacieux, beaucoup moins polyvalent. Et pourtant, c'est la même clientèle, mais avec un budget plus élevé qui cherche ce genre de véhicule-là. Parce qu'on n'achète pas un MDX pour les mêmes raisons qu'on achète un Porsche Cayenne. T'achètes pas un MDX parce que tu veux avoir le logo, t'achètes un MDX parce que tu veux la totale en matière de luxe, mais tu es en même temps un acheteur assez pragmatique.
Oui, c'est rationnel comme achat, un MDX.
Par rapport à l'achat d'un Q7, par exemple.
Ouais.
Alors, on a bien travaillé de ce côté-là. Bon, évidemment, on ne l'a pas essayé, on s'est pas installé à bord, rien, mais ça laisse présager un succès quasi garanti pour ce véhicule-là, qui débarque, en fait, au moment où Infiniti va aussi renouveler son QX60,
ouais,
qu'on a vu passer il n'y a pas longtemps,
mm-hmm,
sous forme de prototype, mais encore là, très près d'un véhicule de production. Alors, j'ai hâte de voir quand ces deux véhicules-là vont arriver nez à nez sur le marché. Bon, Acura aura l'avantage d'une réputation qui est déjà enviable, mais
oui,
le QX60...
Et d'avoir un bon bassin d'acheteurs aussi, déjà. Là. QX60 aussi, mais...
Mais on l'a étiré trop longtemps.
Ben, c'est ça. Là. Donc,
ouais,
on a probablement perdu des acheteurs en cours de route à cause de ça.
Sauf que ça demeure, encore aujourd'hui, le véhicule le plus vendu de la marque.
Ça, c'est fascinant.
C'est incroyable. Puis, on parle d'un véhicule qui est arrivé sur le marché sous le nom de JX35 en fin d'année 2012, sans avoir été renouvelé,
ouais,
jamais.
Ouais.
Alors, c'est quand même pas rien. Dans ce segment-là qui bouge très vite et qui évolue rapidement, Infiniti
Si je me trompe pas, on vantait à cette époque-là la banquette coulissante à la deuxième rangée.
Non, mais ce qui m'a toujours fasciné de ce véhicule-là, c'est aussi le fait qu'on était complètement hors champ par rapport à la direction que prenait Infiniti. Mm-hmm. Infiniti se voulait une marque axée sur la performance, sur la dynamique de conduite. Et là, tu avais une fourgonnette sans porte coulissante avec beaucoup de chrome, avec une conduite ennuyante à mourir, une boîte CVT, puis c'est ce qui a pogné.
Ouais.
Alors que le reste, c'est pas vendu. Fait que ça a été un peu ironique. Bonjour aux gens qui sont les planificateurs de produits et les gestionnaires marketing d'Infiniti ont eu une bonne leçon avec ce véhicule-là, c'est sûr.
Visiblement.
On va parler d'une voiture qui, moi, me passionne énormément. Toi, je sais que tu tripes moins.
J'ai mes réserves.
Mais la Mustang Mach-1 fait un retour pour 2021. Et là, on a annoncé cette semaine non seulement les prix, mais qu'on pouvait placer des commandes.
Oui, effectivement. Il y a d'ailleurs plusieurs lecteurs qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils avaient déjà passé leur commande. Donc, la Mustang en édition Mach-1, prix de base à 65 500 $
Ouais.
Elle vient en quelque sorte remplacer
la
Bolide dans le catalogue. Et si j'ai mes réserves, c'est justement parce que j'étais un très grand fan de la version Bolide. Et c'était une raison de porter un veston brun à l'occasion. Donc, mais la version Mach-1 est beaucoup plus chère là quand même que la Bolide. Je m'explique mal cette différence de prix-là. On était sous la barre des 60 000 avec la Bolide. Et là, on est à plus de 65 000 $ C'est très cher, là, si ça me paraît peut-être même un peu poussé, mais visiblement, il y a un engouement énorme pour cette voiture-là qui va plaire aux nostalgiques, ça, il n'y a aucun doute. Donc, on a commencé à prendre les commandes chez les concessionnaires Ford pour une livraison au printemps 2021.
Alors, c'est pas compliqué, Ford sait qu'on va toutes les vendre.
Bien sûr.
Et
c'est pas limité, donc vous en voulez 12, on va vous en livrer 12, il n'y a pas de problème.
C'est pas limité, mais en même temps, on fabriquera peut-être pas la Mach-1 pour très longtemps. Parce que, aussi drôle que ça puisse paraître, la Mustang, en 2021,
ouais,
va déjà fêter son 7e anniversaire,
oui,
sous cette forme-là. Donc, même 8e.
Il était prévu qu'on nous en présente une nouvelle version, si je ne me trompe pas, en 2022, comme modèle 2023.
Alors, normalement, une Mustang, tu vois, la génération précédente a duré de 2005 à 2014, avant qu'on la renouvelle complètement. Et là, on arrive presque à ce bout-là. Donc, moi, je serais pas surpris que la Mach-1 soit là 2 ans et qu'après, le modèle soit complètement revampé. Mais ça, évidemment, Ford ne nous le dira pas. Et de toute façon, la Mustang actuelle est encore une voiture actuelle, si tu veux,
oui,
mon avis.
Ça a vieilli à l'intérieur, par contre, mais la voiture est encore très belle. Elle n'a pas l'air dépassée.
Ben, t'avais conduit la 4 cylindres récemment.
La 4 cylindres, la version GT cabriolet. Donc, tu sais, sur le plan de la conduite, on est encore là, il n'y a aucun doute. Les acheteurs sont encore au rendez-vous aussi.
Ouais.
Mais à l'intérieur, ça commence à passer date un petit peu.
Dit le gars qui se promène en Chrysler Newport.
Ben
n'est-ce
oui.
Pas, hein? Bon, Volkswagen Taos, on a déjà parlé ici. Remplaçant.
Hein?
C'est pas pire, hein?
Oui.
Remplaçant de la Volkswagen Golf qui, elle, disparaît. Ça, c'est triste.
C'est d'une très grande tristesse. Qu'on nous ajoute un VUS, bon, c'est une chose. Qu'on remplace la Golf par un VUS, c'est vraiment le dernier clou, là. Et donc.
Là, on a vu les images officielles.
Ouais,
on connaît les éléments techniques.
C'est un petit Tiguan, là, il n'y a aucun doute. Et ce véhicule-là va être assemblé au Mexique. Moteur 4 cylindres, 1,5 litres, turbo compressé, évidemment.
Ouais.
Et version de base à 2 roues motrices. On va pouvoir avoir des versions aussi à 4 roues motrices. Et ce qui est triste aussi, c'est qu'il y a des très grandes chances que ce soit un très grand vendeur.
Ah, absolument. Et c'est drôle parce que je lisais la liste des véhicules concurrents qui avaient été établis par Volkswagen. Alors, on parle du Hyundai Kona, du Honda HR-V, Subaru Crosstrek, mais on n'a pas nommé le Ford EcoSport. Je ne sais pas pourquoi.
Ben parce que c'est assez évident. Ce véhicule-là n'est pas dans la course du tout.
Non,
du
absolument
tout.
Pas.
Et ben tu sais, sur le plan stratégique, c'est tout à fait logique d'arriver avec un véhicule comme celui-là parce que ben le Tiguan, oui, c'est un VUS compact, mais il est énorme. Là.
Ah, absolument.
C'est énorme, énorme. Absolument. La preuve, c'est qu'il y a des versions à 3 rangées. Là.
Oui.
Donc d'arriver avec un plus petit véhicule, ben oui, il y avait un vide à combler.
Puis je trouve que, oui, il y a de l'air d'un Tiguan qu'on aurait passé dans la sécheuse, mais le look est un peu plus ramassé et ça me plaît davantage que celui du Tiguan qui est encore une fois un peu pour les mêmes raisons que l'MDX, c'est trop étiré avec des portes trop longues en arrière.
Mais d'ailleurs, en Europe, ils ont une version à empattement court du Tiguan, puis c'est franchement moins laid. Là.
Absolument.
On dirait un petit Touareg, voilà.
Bien, le Tiguan là-bas est vendu à empattement court et notre version est vendue en Europe sous le nom de Tiguan All Space en Europe, pour vous dire à quel point...
Tout est relatif.
Tout est relatif. J'avais tenté une transition du Ford EcoSport à notre prochain sujet, mais tu as élaboré davantage. Alors, revenons à Ford, puisque là, il est question du Ford Kuga. Vous vous souvenez, la semaine passée, que je vous avais parlé du fait que Ford avait repoussé de plusieurs mois.
C'était nébuleux. On était assez avare de commentaires chez Ford Canada.
Ouais. Alors, l'Escape hybride rechargeable, on a repoussé la production, l'arrivée de ce véhicule-là. Ça sera un modèle 2021 qui devrait arriver au printemps seulement. Et ça, c'est si on le fait. Alors qu'on nous avait promis que le véhicule arrivait cette année, qu'on vendrait des versions 2020. Vous pouvez même les bâtir en ligne sur le site de Ford. Sauf que ça n'arrivera pas. Et moi, j'avais décrié ça haut la main. L'excuse de Ford avait été la disponibilité des batteries et la COVID-19. Ce en quoi je ne croyais pas du tout. Et là, on a appris pourquoi. On a appris quelle était la véritable raison. Moi, j'avais évoqué le fait que l'Escape ne se vend pas autant que ce à quoi on s'attendait.
Donc,
c'est vrai.
C'est une des raisons. C'est certain que ça aide pas son cas non plus. Mais cette semaine, Ford en Europe a rappelé pas moins de 20 000 Kuga, donc l'équivalent du Escape, mais vendu en territoire européen, en version hybride rechargeable, parce qu'il y a des risques d'incendie qui peuvent être causés par la batterie. Donc, je pense que les ingénieurs vont retourner en laboratoire, vont remanier le système de batterie, parce que...
Et si jamais on repense la batterie du véhicule, peut-être que ça serait une bonne idée de faire une batterie de plus de 15 kWh plutôt que 14,4, ce qui permettrait de profiter du plein crédit gouvernemental canadien.
Et de ne pas être désavantagé par rapport à son rival le plus direct, le Toyota RAV4 Prime.
Mais tu as remarqué dans ma phrase qu'il y a beaucoup de « si » et de « mais ».
Oui.
Et
on sait heureusement, il n'y avait pas de « ray ».
Non, et c'est ça. Mais on ne sait pas exactement quand l'Escape rechargeable arrivera chez nous.
Mais on rajoute plusieurs mois au calendrier initial, ça, il n'y a pas de doute.
Moi, je ne serais même pas surpris qu'une 2021 n'existe pas et qu'on se rende à 2022. Mais toujours est-il que la vraie raison, c'est celle-là. Et ça, Ford, évidemment, n'a pas voulu nous le dire parce que des fois, le marketing chez Ford et les décisions sont un peu discutables.
Pas qu'on veut être opaque, mais c'est un peu ça quand même.
Ouais, voilà. Et ironiquement, parallèlement, cette semaine, on faisait connaissance avec le Bronco. On a pu s'asseoir dedans.
Le Bronco Sport.
Ouais, hein? C'est ça, le Bronco Sport. Mais on a pu s'asseoir dedans, on a pu regarder le véhicule davantage parce qu'évidemment, on en avait amené un ici à Montréal. Et je pense que les ventes qu'on a perdues avec l'Escape, on va aller les rechercher avec ça. Là.
Oui, c'est parce que c'est un véhicule qui est très sérieux dans son approche, un look.
Un sacré beau look.
Une allure là, un peu plus costaud. Tu vas me dire, c'est pas difficile de faire mieux que l'Escape actuel. Donc, franchement, c'est un véhicule qui va être cher. C'est un véhicule pour le moteur à 4 cylindres. Là, il va falloir prendre la version Badlands, qui est la plus qui est au sommet de la gamme. Ça va être plus de 40 000 $ mais je vois un bel avenir à ce véhicule-là.
Puis, tu sais, je faisais un parallèle entre l'Escape et le Bronco Sport qui partagent les mêmes technologies techniques. Imagine-toi une botte Kodiak à côté d'un loafer. Là.
C'est à peu près ça.
C'est à peu près ça. En termes de présentation, oui. Tu sais, il y en a un qui est comme pas mal plus costaud, pas mal plus inspirant. Tu sais, alors que l'Escape tente d'aller chercher une clientèle de voitures et on n'a pas réussi le mandat qu'on voulait. Ford avait annoncé, ironiquement, de gros investissements canadiens pour le développement de véhicules électriques du côté de l'Ontario et a pu bénéficier de subventions gouvernementales majeures, bien sûr.
Et là, cette semaine, il s'est passé la même chose, mais avec Fiat Chrysler. Donc, le géant a investi 1,5 milliard dans le réaménagement d'usines et le développement de véhicules électriques, l'assemblage de véhicules électriques.
Ouais.
qui va avoir lieu aussi en Ontario. Donc,
c'est... à l'usine de Windsor où on fabriquait la Dodge Grand Caravan. Ouais. Évidemment, là, c'est la Chrysler Grand Voyageur et la Chrysler Pacifica qu'on fabrique sur place, mais le volume n'étant pas aussi élevé et parce qu'il faut évoluer, ben je pense qu'on travaille à l'élaboration de la fabrication de véhicules électriques. De toute façon, on fabrique déjà une Pacifica plug-in hybrid sur place.
Donc, c'est déjà un début, là.
C'est déjà un début, mais c'est une bonne annonce du côté de Chrysler parce qu'évidemment, oui. les produits Chrysler qu'on fabrique du côté canadien commencent à dater.
Charger, Challenger et compagnie.
Ben, écoute, ça commence à inquiéter les employés, là, parce qu'on sait ce qui est arrivé avec la Camaro, on sait ce qui est arrivé avec les usines de GM au Canada.
Ben, d'ailleurs, on s'est vanté de la création de 2000 nouveaux emplois d'ici 2024, mais on lit là, en plus petit caractère en dessous qu'on en avait supprimé 1500 au cours de l'été. Oui. Donc, finalement, on arrive là avec, tu sais, au bout de la ligne, plus 500. Ben, c'est déjà bien, mais c'est la vérité, c'est qu'on a juste plus 500, plus 2000.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Chrysler au Canada. On parle...
Véhicule de la semaine, rapidement.
Toi, tu as été en amour,
non,
Germain,
absolument pas.
Avec le Ford Explorer ST.
Écoute, je m'attendais à une version, oui, sportive de l'Explorer. Explorer qu'on a déjà conduit dans une multitude de versions. La version ST, c'est celle qui est présentée comme étant sportive. Oui, ça accélère vite, hein, parce que on a le V6 3 litres biturbo, c'est 400 chevaux. C'est très puissant, c'est vraiment pas ça le problème. C'est même impressionnant de voir à quel point un mastodonte comme ça peut accélérer.
Se déplacer,
Mais pour le reste, je trouve que c'est complètement déconnecté de la route.
Tu vois, moi, j'ai pas été... Justement...
C'est un véhicule qui est pesant, c'est lourd, c'est encombrant. Non, j'ai trouvé qu'en termes de direction, on n'était pas là du tout. Transmission automatique à 10 rapports, j'avais trouvé le même défaut dans la Mustang à moteur V8. Donc, quand elle est programmée pour une conduite plus sportive, c'est vraiment là qu'on a des problèmes. C'est des à-coups tout le temps, ça donne des coups. Elle est hésitante, il y a 10 rapports, tu vas me dire, c'est normal qu'elle sache pas lequel choisir, mais non, c'est vraiment pas convaincant. Et quand on regarde la concurrence, ben oui, c'est vieillissant, là, un Durango, mais au moins, on a un moteur V8, soit de 5.7, soit de 6.4 litres. Il y a de quoi rugir, et pour moi, c'est un VUS, là, à 3 rangées, en version musclée, qui est pas mal plus intéressante.
Mais l'Explorer ST, moi, ce que j'ai aimé, c'est que la plateforme est drôlement plus rigide. C'est un camion qui est solide. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux que l'ancienne version sport, ça, c'est clair. Bon, le châssis de l'ancienne génération commençait à dater. Là, c'était la plateforme du premier Volvo XC90.
Ouais.
Mais j'ai trouvé, moi, que l'Explorer ST... Moi, ce qui m'a pas plu sur l'Explorer, c'est pas le manque de qualité dynamique. Au contraire, j'ai trouvé que pour un VUS aussi lourd que ça, on était connecté bien suspendu, les roues sont gigantesques puis des fois ça frappe fort, c'est vrai. Mais ce qui m'a pas plu, c'est tout l'aspect artificiel de la sonorité.
L'aspect artificiel, juste les sorties d'échappement.
Les échappements qui en sont pas des vrais.
Ben non, bon, ils sortent juste en dessous, tu sais, tu dis pourquoi on les a pas fait sortir par les trous qui sont visibles, tu sais, donc il y a plusieurs incohérences comme ça.
Ben, en fait, il y a une raison technique pour laquelle l'échappement n'est pas un véritable échappement.
Okay.
C'est pour une question de sonorité et pour une question d'émanation.
Okay.
L'impact de l'échappement au sol est moindre que si tu l'envoies directement en arrière.
Bon.
Mais
est-il que quand tu te penches, c'est bizarre.
Ça a l'air fou. Et la sonorité dans les haut-parleurs, c'est désagréable.
C'est terrible.
Se peut pas. Mais je ne sais pas quelle est cette mode-là de vouloir envoyer du son sportif dans des haut-parleurs de voiture. On le fait avec la GTI, j'ai détesté. On le fait avec la WRX, j'ai détesté. Mais sur le plan dynamique, j'ai pas mal mieux aimé l'Explorer ST que le Edge ST. Et lui, pour moi,
c'est pas une grande réussite.
Ça m'a vraiment pas plu. Rapidement, écoute, je te parle du BMW X5M que j'ai conduit aussi. Ça, j'ai
avec des belles bottines.
Avec des bottines. 315-35 ZR22 en arrière. Bonjour, la facture.
Non, j'ai pas ça en stock.
mais j'ai trouvé que, en matière de comportement sportif, cette machine-là était exceptionnelle. Vraiment, là, tu vas me dire à quoi ça sert un VUS de 600 chevaux et plus. Rien. Je suis d'accord. d'accord avec toi. Et je n'achèterais pas une X5M. Personnellement, j'irais vers une version à moteur V8 traditionnel. Là.
Ouais.
Ou même le 6 cylindres fait un boulot extraordinaire. Si tu veux avoir un équilibre qui a du bon sens, le 6 cylindres en ligne dans un X5 fait un travail incroyable. Mais j'aime le X5 plus que le Cayenne, plus que le Q7,
quand même,
plus que le GLE.
Quand même, c'est pas rien.
Je trouve que ce véhicule-là a une direction super précise, le châssis travaille bien, contrairement à d'autres véhicules que j'ai conduits récemment, notamment le GLE de Mercedes, pas de craquement. Et j'avais été déçu du temps de réponse à l'accélération du Porsche Cayenne à moteur V6 que j'avais conduit. Ça, c'est instantané. Tu vas me dire, oui, il y a 600 chevaux, là, mais 617 pour être plus précis. Mais la conduite, l'agrément, l'impression de luxe suprême aussi à bord, l'éclairage de nuit, c'est magnifique. Alors, j'ai vraiment, vraiment aimé ce camion-là. Bon, la facture est conséquente. C'est un camion irrationnel complètement. Mais ça m'a convaincu que si j'avais à choisir un véhicule dans ce segment-là, dans une gamme à 80, 85, 90 000, plutôt que d'aller jouer dans les terrains du 125, 130, là, j'irais voir un X5 avant les trois autres. Ça, je suis persuadé de ça parce que j'ai vraiment aimé la dynamique complète de ce produit.
Bon, bien, c'est assez clair.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Germain, on est habitué de parler des Porsche 911, des Porsche Boxster 718, 718 Boxster. Peu importe.
Et de plus en plus de la Taycan.
Taycan.
Voilà. Ouais, parce que là. Modèle qui retient l'attention là, depuis quoi, un an à peu près. Là.
Ouais. Et qui a retenu l'attention de tous ceux à qui j'ai fait un tour en Taycan parce que je peux te dire que ça décolle sur un moyen temps. Mais on a eu cette semaine, en fait, la semaine passée, un reportage de notre collègue Frédéric Mercier sur les Porsche à moteur avant, qui sont des voitures relativement rares dans l'histoire de Porsche. Et lui, possédant un 944, a décidé de d'écrire une histoire là-dessus parce que le constructeur Porsche avait mis à notre disposition, nous les journalistes, une 968 de dernière génération.
Un modèle cabriolet. Hein?
Un modèle cabriolet, tout à fait étanche d'ailleurs, et qui évidemment était l'évolution de la 944 de Fred. Alors, qui de mieux que Fred lui-même pour nous parler de son expérience au volant d'une Porsche à moteur avant?
Et ça tombe bien, il est au bout du fil.
Hein?
Ah, ben regardons ça, toi!
As-tu vu ça, comment c'est pas magnifique, la technologie? Bon,
bonjour,
Fred, bonjour.
Salut.
Fait que, d'abord, avant de parler de la 968, pourquoi, toi, t'étais attiré par une 944?
Moi, j'ai réalisé assez rapidement que dans les voitures des sportives des années 80, que je pouvais m'acheter quand j'avais 22-23 ans, parce que c'était à cet âge-là, ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai cette auto-là,
ouais.
J'ai réalisé que c'était pas mal le meilleur rapport qualité-prix que tu pouvais avoir parce que, puis c'est ce que j'explique dans l'article que j'ai fait sur les. Il y a comme quatre Porsche à moteur avant de cette génération-là, là, la 924, la 928, la 944, puis la 968. Mais la 924 et la 944, surtout, sont des voitures que tu peux avoir pour quasiment une bouchée de pain. Ça commence à monter un peu, là. Puis qui sont franchement super agréables à conduire. Moteur à l'avant, transmission à l'arrière, ce qui fait que tu as une répartition du poids qui est assez exceptionnelle. Puis pour, écoute, c'est sûr, si tu m'avais donné le choix, j'aurais acheté une 911, là. Mais pour l'argent que j'avais à l'époque...
Voilà, on a la citation qu'on voulait, on arrête ça là.
Non, mais c'était carrément le choix le plus logique pour moi, qui voulait une petite auto de fun, puis qui voulait pas nécessairement dépenser une fortune.
Puis toi, une Ford Escort EXP, ça te tentait pas, là?
J'aime mieux les Allemandes.
OK.
Je sais que t'aimes bien les Américaines, là, mais ouais...
Ah, je sais même pas si on peut appeler ça une américaine, une Escort EXP. C'est comme...
Une voiture sans passeport.
Enquête d'identité éternelle. Bon, fait que toi, tu t'es procuré une 944. Tu l'as depuis longtemps, justement. Les problèmes que tu as eu avec ça, c'est quoi?
Il n'y en a pas tant que ça, pour vrai. Quand je l'ai acheté, là, je m'en servais vraiment beaucoup. J'étais journaliste généraliste à l'époque, puis il fallait que je me promène sur le terrain. C'était ma seule auto l'été. J'étais allé même la première année que je l'ai eu, j'étais allé jusqu'à Terre-Neuve, puis je suis revenu. Puis j'ai pas eu de troubles du tout. Les seuls troubles que j'ai eu, je te dirais, en 7-8 ans de possession, c'est l'alternateur que j'ai dû faire changer, comme n'importe quelle voiture à un moment donné. Le démarreur aussi, le starter qui faisait défaut à un moment donné. Puis sinon, c'est des niaiseries du genre une poignée de porte à un moment donné qui a cassé.
Ben, la même poignée de porte qu'une Rabbit puis qu'une Jetta.
Oui, c'est ouais. juste qu'il y a été écrit Porsche dessus. Mais exact, c'est, et voilà.
Porsche dessus, donc elle coûte trois fois plus cher.
Oui, c'est ça.
Mais sinon, c'est le même mécanisme tout aussi peu efficace.
Oui, c'est
ça. Que mon Westphalia, d'ailleurs. Et, parce que c'est un Westphalia aussi, puis c'est exactement la même poignée de porte.
Qui est beige, lui aussi, juste pour les, juste pour les auditeurs. Et si on... comment t'expliquerais le fait qu'elle a une réputation de piètre fiabilité si, ben, toi, franchement, ça s'est plutôt bien passé?
Ben, je sais pas si... La réputation est pas si... Je pense qu'elle est plus axée sur les modèles turbo, parce qu'il y avait des versions à moteur turbo.
Qui valent aujourd'hui une fortune.
Qui valent aujourd'hui beaucoup plus cher que ma 944 de base, qui vaut encore, je pense, à peu près le prix que je l'ai payé à l'époque, là, qui est moins de 10 000 $
Ouais.
Mais les versions turbo, bon, il paraît que c'est des moteurs un peu plus capricieux. Peut-être que je suis bien tombé aussi. Là, je suis juste un propriétaire, c'est assez anecdotique. Mais les autres proprios de 924, 944, avec qui j'ai eu la chance de parler, m'ont jamais parlé de leur voiture comme des voitures particulièrement capricieuse. Il faut savoir aussi que c'est des
mais
autos...
Non, parce qu'on sait bien qu'un propriétaire de Porsche ne commencera pas à vanter le fait qu'il est tout le temps au garage.
Ouais, mais attends. Là, c'est pas un propriétaire de 911 de l'année. Là. C'est quand même des tripeurs qui ont des autos comme ça.
Non, je sais bien.
Puis ce que je voulais dire aussi, c'est côté le body, là, côté carrosserie, moi, j'ai jamais vu une 924 ou une 944 dévorée par la rouille.
Non,
peut-être
ça, c'est vrai.
Que les gens ne les sortent pas l'hiver, là, mais je pense que
c'est quand même un facteur considérable.
Oui, absolument, mais c'est des voitures qui n'étaient pas propices à rouiller, je pense, à la base.
Et peut-être pour montrer l'envers de la médaille, c'est drôle parce que j'ai un ami qui, à l'âge de 40 ans, a décidé de réaliser son rêve de posséder finalement une Porsche. Bon, il a choisi lui aussi une 944 beige.
On a les rêves qu'on peut, Germain.
Oui, c'est ça. Donc, une 944 beige. Et lui, à l'inverse de toi, ben, il n'y a pas un problème qu'il n'a pas eu avec cette voiture-là. C'était malchance après malchance.
Mais ça, c'est-tu quoi, Germain? Puis je pense
mais c'est vrai pour toutes les autres.
Oui, voilà.
C'est l'entretien qui a été fait sur la voiture. Le propriétaire qui m'a vendu ma Porsche, c'était un gars, mon gars, il me l'a montré son auto, puis il laissait vraiment aller son bébé. C'était un gars de Colombie-Britannique qui habitait à Montréal, puis qui prenait sa retraite, puis il retournait vivre dans l'Ouest. Puis il laissait vraiment aller son bébé, puis je le voyais que c'était un auto qui avait été très, très bien
entretenu. Bichonné, là, ouais.
Exactement. Tandis que si tu achètes une Porsche ou n'importe quel modèle qui traîne dans le fond d'une cour, qui n'a pas eu d'entretien depuis 10 ans, c'est certain que tu vas avoir des problèmes. Peu importe, ça peut être une Corolla puis tu vas avoir du trouble quand même, tu comprends?
Si on prend une Porsche 944 au milieu des années 80, qu'on la compare avec ce qui se faisait, donc les Supra, les RX-7, les 300ZX qui venaient d'arriver sur le marché.
Dans la publicité même de la RX-7, on la comparait directement là, au Porsche moteur.
Avec raison.
Au point où Porsche a poursuivi Mazda parce que les lignes étaient tellement semblables.
Puis c'est vrai qu'elles étaient similaires. Ouais, là.
Absolument. Mais c'était quand même plus cher une Porsche et t'en avais pas vraiment plus en réalité, là.
C'était très cher. C'était au-dessus de 50 000 $ pour ce modèle-là. À l'époque, là, c'est des gros sous. Mais par contre, une architecture comme ça, avec le moteur à l'avant puis une transmission à l'arrière, c'était assez inédit. Là. Puis encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui existe vraiment. Je pense que Porsche, avec la 924, on peut faire l'histoire si vous voulez.
Mais il y en a des voitures aujourd'hui modernes avec les transmissions arrière. Là. Je pense seulement à la Corvette
C7. Ça, mais c'est réservé à des bolides. Là. C'est pas quelque chose que tu vois sur n'importe quoi. Fait que Porsche était vraiment... On avait bâti une architecture, je pense, très intéressante. C'est pas des bombes de puissance. Là. C'est des petits
145 chevaux, quelque chose de même. Ouais.
À peu près, quelque chose comme ça. Avec la 968, à la fin, on était vers les 240. Mais c'est pas des bombes de puissance. Je pense pas que c'est ça le but qu'on recherchait avec ces voitures-là non plus. C'est juste des petits bolides, super le fun à conduire, comme une RX-7 d'ailleurs, comme une Toyota MR2, des trucs comme ça. Puis moi, c'est ce que j'aime de ma voiture. C'est une petite auto que je peux avec laquelle je peux m'amuser l'été. C'est un jouet, on s'entend, là. C'est pas mon daily driver. Mais à ce jour, je continue de penser que c'est dans les meilleures voitures des années 80 qui ont été construites. Pour le prix qu'on en demande aujourd'hui. Franchement, je pense
le
que
prix, prix qu'on en demandait à l'époque.
Oui, voilà, tout est relatif.
À budget limité, je prendrais quand même une 911 ou même une 959, tu comprends?
Oui, mais, à budget très illimité, là.
pour le prix qu'on en demande, je pense encore que c'est un bon bargain aujourd'hui.
Est-ce que tu as eu la chance ou la malchance, devrais-je dire, de conduire une 924 aussi?
J'ai jamais conduit une 924, non.
Parce que ça, c'est assez ordinaire, là. Là, là. Ben,
écoute, à la base, parce que quand on est arrivé avec ce modèle-là.
On remplaçait la 914, qui était d'une architecture complètement différente. Mm-hmm. Complètement.
Voilà, la 914 qui avait été développée vers la fin des années 60 avec Volkswagen. On avait un moteur central refroidi à l'air. Puis en 1976, ce véhicule-là arrivait à la fin de sa production. Puis Porsche est arrivé avec la 924. Porsche avait aussi développé ce véhicule-là en partenariat avec Volkswagen. Finalement, pour un paquet de raisons, Volkswagen s'est désisté du projet. Porsche a racheté les parts. Puis ça a été un véhicule qui a été commercialisé sous la marque Porsche uniquement et pas avec Volkswagen. Par contre, pour bien des amateurs de Porsche, ça restait une Volkswagen avec un logo Porsche. On l'a appelé la Porsche des pauvres. Ce qui est un peu plate, je trouve, parce qu'on arrivait en 76 avec, oui, un véhicule à moteur avant, mais un moteur refroidi à l'eau, ce qui n'était pas le cas avec la 911. En fait, il a fallu attendre jusqu'en 97 pour que la 911 délaisse finalement la technologie de refroidissement à l'air. Puis c'est ça, la 924, je pense, amenait quand même un certain vent de modernité chez Porsche. Par contre, c'est ça, c'était pas un véhicule très puissant. Je sais pas, toi, Antoine, si tu as déjà eu l'occasion d'en conduire une, mais avec le petit moteur, je pense que c'était 2 litres au début.
Ah, c'était effrayant. Il n'y avait rien là-dedans.
Ça devait être assez... assez
honnêtement, au moment où j'ai conduit une 924, moi, je possédais une Sirocco 8 valves de 90 chevaux.
Qui n'est pas non plus une bombe, là, loin de là.
Et j'avais beaucoup plus de plaisir au volant de la Sirocco. Là. C'était, la 924, il n'y avait absolument rien là-dedans. Par contre, moi, j'ai toujours été attiré par ce design-là des Porsche, le long museau, le siège. Tu sais, j'ai toujours aimé
les.
J'ai toujours aimé ce genre de design-là. C'est pourquoi j'ai possédé une Supra, notamment, parce que j'aime avoir le siège reculé tout près de l'essieu arrière, un long museau, les phares escamotables. Et c'est pourquoi une de mes voitures de rêve a longtemps été une 928.
Et, jusqu'à temps que t'en conduises une.
Bien, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai les sous pour m'en payer une et j'en trouve une du côté de Mont-Saint-Bruno, noire. La voiture est en superbe état. Elle a été achetée par un type de Nouvelle-Écosse qui l'a gardée très longtemps. Elle a été vendue à Saint-Bruno ensuite. J'ai l'historique au complet. Je vais voir la voiture puis je vais essayer cette auto-là pour réaliser que je déchante, mais totalement.
Et là, c'est pas parce que la voiture est en mauvais état. Là.
Non.
Au contraire, la voiture présente bien.
Bon.
Mais la voiture elle-même, finalement,
Évidemment, cette expérience-là reste dans ma tête et c'était pas une 928 GTS 93, mm-hmm. là, la version la plus poussée.
Mais on dit toujours de jamais rencontrer nos idoles. Hein? Donc, c'est peut-être ça, finalement, qui s'est passé. Là.
Ouais, c'est ça. Vous voulez te présenter Phil Collins, Germain.
Oui, c'est ça, exactement.
mais tout ça pour dire que j'ai pris le volant de cette auto-là. Écoute, ça se vendait 125 000 $ en 88. Là. C'était de l'argent, ça n'a aucun sens. Imagines-tu, c'est quoi, 250 000 aujourd'hui?
Oui, probablement.
Ça n'a pas de sens.
Probablement.
Et je m'assois à bord de cette auto-là. Oui, tu as une belle sellerie de cuir, tu as l'instrumentation typique de Porsche, mais tu as des commutateurs de Volkswagen Jetta
partout.
Absolument. Tu sais, puis moi qui ai eu plusieurs Volks de génération 1, je reconnais les pièces facilement. Tu démarres la voiture, ça tourne comme un vieux V8 américain. Puis tu pars avec ça, c'est débalancé, c'est lourd, c'est puissant, mais de façon relative. J'ai vraiment pas été impressionné par le comportement de l'auto et elle était en bon état. Si bien que j'ai un peu compris, pourquoi on avait. On était vraiment champ gauche avec cette auto-là chez mm-hmm. Porsche dans le temps. Ça s'est vendu beaucoup aux États-Unis, moins du côté de l'Europe. Et c'est une voiture qu'on a fabriquée, si ma mémoire est bonne, de 77-18 jusqu'en 94-95.
Exactement.
Alors, on l'a eu longtemps.
Ça a duré quand même une vingtaine d'années.
Ouais.
Puis le but avoué de Porsche avec cette auto-là, en tout cas à l'époque, en 77, quand on l'a lancée, c'était de remplacer la 911. La 911, à cette époque-là, pour Porsche,
on avait fait le tour du jardin. Puis, ouais.
On l'avait lancée quand même en 63, ça faisait un bout de temps. Puis, on voyait la 928 comme le nouveau porte-étendard de la marque. Un peu comme Ford avait fait à l'époque pour remplacer la Mustang. Qu'est-ce qu'on avait lancé? La Probe, qui finalement est morte bien avant la Mustang. Puis ça a été un peu la même chose avec la 928, qui n'a jamais réussi ce mandat-là d'aller remplacer la 911, la 928, qui, Oui, il y avait une technologie à moteur avant également, mais c'était un moteur V8 qu'on avait sous le capot. On n'était vraiment pas dans les mêmes eaux que les 924, 944 et 968 qui se sont un peu succédé. La 928 faisait partie de cette génération-là de Porsche à moteur avant, mais était plus seule dans son camp. N'a jamais énormément évolué non plus en près de 20 ans.
Bon, les dernières, les 928 GTS, c'était quand même quelque chose côté puissance.
C'était beaucoup plus puissant. Et... toi, tu me disais que celle que tu avais conduite, c'était une version à transmission automatique.
Ouais, si ça S4, c'est ça. S4, donc, tu sais, conditions correctes, mais une GTS, je sais que toutes les setups de suspension étaient complètement différents. Alors, ça devait être une voiture qui avait un peu plus de maniabilité. Évidemment, ouais. Plus de puissance. On était au-dessus de 320 chevaux, quelque chose comme ça.
C'est plus lourd, on veut pas.
Ah, c'est très lourd comme auto. C'est très, très lourd. Tu le sens.
Ben, je t'ai laissé conduire ma 944 cet été, puis je pense que tu as pu voir que ça se compare très bien à la petite Corrado que tu as dans ton garage ou des
ouais.
trucs comme ça.
Oui, ouais, absolument. Absolument. À l'exception que c'est une voiture propulsion. Mais, ouais. Mais non, ça veut dire que c'est pas du tout le même genre de voiture. Et ce qui est drôle comme parallèle, c'est que a fallu attendre en 2010 avant de revoir apparaître une voiture Porsche à moteur avant qui est la Panamera.
Oui, qui était quand même très différente des anciennes Porsche à moteur avant.
Mais qui est quand même, en quelque sorte, selon moi, venue reprendre le flambeau de la 928. Oui, c'est une 4 portes, oui, c'est plus gros. Mais aujourd'hui, la clientèle qui achète ce genre de voiture-là, c'était la clientèle qui, à l'époque, achetait des coupés Grand Tourisme, des BMW 840, des trucs comme ça. Alors, c'est un peu la même genre de clientèle. Tu sais, la 840 ou la 850 de l'époque, aujourd'hui, c'est la série 8.
Oui.
Et la série 8 se compare avec une Panamera. Donc, en quelque sorte...
C'est une évolution.
On pourrait
qualifier ça comme
puis
ça.
Puis là, bon, il y en a qui vont dire que c'est la Taycan, mais là, on s'en va complètement ailleurs.
Oui.
Mais, et si toi, Fred, tu avais... Hey, en passant, c'est le fun. On parlait tantôt, hors d'onde, des chiffres de vente des 944. Il s'en est quand même vendu un sacré paquet.
Des chiffres de production, en fait. Il s'est vendu, il s'est fabriqué quelques 150 000 exemplaires de la 924, 160 000 de la 944. Puis la 968 qui a existé seulement pendant 4 ans par la suite, c'est vraiment la fin de cette génération de véhicules-là, avant qu'on arrive avec la Boxster en 97, il s'en est vendu 11 000 quelques, me semble. Fait que ça en fait aujourd'hui un véhicule beaucoup plus rare.
Ouais.
Tandis que la 924 puis la 944, ben, c'est un peu pour ça aussi qu'on peut les avoir pour pas trop cher aujourd'hui. C'est parce qu'il y en a quand même pas mal.
Ouais.
Vous allez sur Kijiji. 300 000 unités, là.
Puis la 968 que tu as conduite, moi, ça m'a toujours intrigué parce que c'est un 4 cylindres de 3 litres qu'il y a là-dedans.
J'ai trippé, mon gars. Écoute, moi,
c'est un véhicule qui a été mis à la disposition par Porsche Canada. Là, donc
exactement. Donc, le relationniste de Porsche Canada...
de la collection du manufacturier.
Le relationniste de Porsche Canada me lâche un coup de fil. Il me dit, écoute, on aurait une 968 de 94 qui fait partie de notre collection héritage. Serais-tu intéressé à la conduire? Puis moi, ayant une 944, à la base, je me suis dit, ben, on va réunir les deux véhicules, puis on va essayer de faire un petit quelque chose. Puis juste de conduire, d'aller prendre le volant de la 968, d'abord, quand tu t'assois à l'intérieur, c'est exactement le même habitacle que la 944. Je me sentais vraiment comme dans mon auto, la différence seule que j'étais dans un modèle convertible, alors que ma 944 est une version coupée, mais c'est vraiment, écoute, les mêmes commutateurs, la même présentation, il n'y a absolument rien qui a changé.
Mais t'as un coussin gonflable.
T'as des coussins gonflables, c'est vrai. Ça, c'est une différence.
Ouais.
Heureusement, j'ai pas eu à tester. Il y a une transmission manuelle à 6 rapports aussi, tandis que sur la 944, c'est une 5 rapports. Mais tout de suite, ce que j'ai vu, c'est que c'est un véhicule avec pas mal plus de puissance. Tu l'as dit, c'est un 4 cylindres de 3 litres qui avait déjà dans la 944.
C'est très gros comme 4 cylindres, là.
C'est un très gros haut et c'est un gros moteur. Ouais. Puis c'est ça, la 944, on est arrivé au début, le modèle de base avait un moteur de 2,5 litres. On est passé à 2,7 litres de mémoire avec la 944S, puis à 3 litres avec la 944S2 au début des années 90. Puis quand on a créé la 968, ben on a juste pris la mécanique de la S2 pour l'amener dans la
944S2, ça aussi, c'est rare. Ça se vendait pas beaucoup, c'est cher, mais c'est une voiture recherchée.
Il y a quand même des variantes comme ça qui ont été produites à plus petit exemplaire. Je pense même à la 940, la 924 Carrera GT, qui est un modèle de collection aujourd'hui, même si ça fait partie de la famille 924, qui est probablement la moins désirable de toute cette gamme-là. Pour les collectionneurs, il y a toujours des petites versions. Puis Dieu sait que Porsche sont bons pour faire des versions. Là. Il doit avoir quoi? Mais là, avec la 911 de nouvelle génération, on n'est pas rendu là, mais je pense que quand on avait la 996, la 997, en tout cas la 991, la dernière, on avait une vingtaine
de. Je te laisse faire ton arithmétique, là, vas-y, c'est bien parti.
Écoute, on se perd dans les chiffres avec les Allemands. Mais ouais, tout ça pour dire que la 968, j'ai beaucoup, beaucoup aimé mon expérience. Franchement, c'est une voiture qui se conduit comme ma 944, mais avec juste un petit peu plus de oomph en dessous du capot. C'est dommage qu'il y en ait moins, qu'il y en ait aussi peu, mais en même temps, ça en fait des véhicules pas mal plus désirables.
Et une fois qu'elle aura fait la tournée là, des journalistes partout au Canada, quel est le but finalement de Porsche avec cette voiture-là?
Je pense qu'on était censé être trois journalistes au Québec à la conduire avant qu'elle retourne à Toronto. Puis j'ai eu un problème de batterie avec le véhicule pendant ma semaine d'essai. J'étais le premier à la conduire. Puis à un moment donné, le véhicule ne voulait plus démarrer. C'était la batterie qui était à terre pour une raison qui, je continue de croire, n'est pas la mienne. Je pense pas que j'avais laissé rien ouvert ou quoi que ce soit.
Non, mais on sait très bien que des problèmes électriques dans ce genre de voiture-là,
ça
n'arrive jamais.
Ça n'arrive jamais. Là. T'es tombé sur une mauvaise journée. Là.
Mais moi j'ai démanché la batterie. Je l'ai rentré chez nous. Je l'ai chargé toute la nuit. Je l'ai réinstallé dans le véhicule.
Je l'ai mis dans le four.
Mais j'ai plus eu de trouble, mais j'ai quand même avisé nos amis chez Porsche. Puis eux, par mesure préventive, ont décidé de l'amener au concessionnaire pour vérifier. Ah oui, puis pendant
elle n'était plus sous garantie.
Pendant ma semaine d'essai, l'indicateur de vitesse a cessé de fonctionner. Donc, je ne pouvais pas savoir à quelle vitesse j'allais.
Tout est normal.
Porsche a décidé de ne pas prêter le véhicule au journaliste qui était censé me succéder. Donc, j'ai été le seul au Québec, Germain, en raison de ces petits problèmes-là, à pouvoir la conduire. Puis, d'habitude, être à Toronto, j'ai aucune idée qu'est-ce que Porsche fait avec
ça. Ils ont une collection de voitures là-bas.
Ouais, comme d'autres marques, d'ailleurs. Là, je me souviens, il y a un an ou deux, Mazda nous avait prêté une RX-7. Vrai.
Qui, elle aussi, avait brisé, que je n'ai pas pu conduire, ouais, d'ailleurs.
Voilà.
Fait que ça fait partie des risques. Bon, évidemment, cette voiture-là s'est retrouvée dans une collection. Elles sont rares, les 968, mais on comprend pourquoi. Parce que dans les années 90, les 300ZX, les Supra, les RX-7, les Dodge Stealth, RT Turbo, c'est des voitures beaucoup plus poussées et beaucoup plus performantes que la 968 qui coûtait encore beaucoup plus cher. Donc, qui achetait ça, une 968, à cette époque-là?
C'était cher. Puis, veux pas, on avait refait le design par rapport à la 944, mais c'était encore une 944.
Ben oui. On avait sablé les coins.
À laquelle on avait
sablé les coins.
Puis, greffé un moteur un peu plus puissant. Mais c'est ça. C'est un véhicule qui était en fin de carrière. Puis, on l'a changé au milieu des années 90 pour la Boxster. Qu'on connaît encore très bien.
Ouais.
Mais c'est ça. Je pense que Porsche, c'est un peu le Hail Mary, là, le dernier espoir avec la 968 pour revamper les ventes. Ça ne s'est pas passé. Non.
Puis à ce moment-là, au début des années 90, c'était des belles générations de 911 là, avec la 964 puis la 993. Après, c'était des modèles
belles, à mon avis,
très intéressants. Là. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'on a délaissé finalement ces Porsche-là à moteur avant.
Et il faut se souvenir qu'au milieu des années 90, Porsche battait de l'aile. Mm. On vendait plus de voitures. On cherchait une solution pour régler ça. Et c'est la Boxster qui est arrivée jusqu'à ce que le Cayenne débarque. Mm-hmm.
Porsche à moteur avant.
Oui. Mais
avec une configuration un petit peu plus différente.
Oui, c'est ça. Mais disons que c'est pas mal moins Porsche que les autres Porsche. Là on tombe dans un autre créneau. Mais
C'est plus que des commutateurs qu'on partageait avec Volkswagen.
Oui, c'est ça, exactement. Mais il en demeure pas moins que la Boxster est venue temporairement sauver les meubles, sauf qu'au milieu des années 90, on vendait plus rien. Là. Des 911, un peu, oui, mais tu t'adresses à une clientèle
très nichée.
Très nichée.
Ça prend plus que ça pour faire vivre une marque. Mais
il faut se souvenir qu'en 1988, 9, 10, 11, les sportives se vendaient bien, mais rendu au milieu des années 90, les constructeurs abandonnaient les sportives une à une et Porsche n'avait bâti son plan d'affaires que sur des voitures sport. Donc, il fallait trouver une solution. Là. Donc, d'avoir abandonné durant la même année la 928, la 968 et d'avoir renouvelé 2 ans après d'avoir lancé la Boxster et l'année d'après d'avoir introduit une première 911 à moteur refroidi à eau, ben ça venait complètement changer la donne chez Porsche. Là.
Exactement. Puis c'était la fin d'une époque aussi en même temps. l'époque des Porsche à moteur avant, qu'on a éventuellement ramené, tu le disais, avec la Panamera, le Cayenne, puis le Macan aussi qui a suivi. Mais pour ce qui est des sportives, ben Porsche, on a la 911, évidemment, qui a un moteur à l'arrière. Puis avec la Boxster, puis la Cayman aussi, qui est son penchant à toiture, ben on est retourné vers une configuration à moteur central qu'on avait amené à l'époque avec la 914.
Ouais.
Moi, je me demande, est-ce qu'un jour, on pourrait revoir une sportive Porsche plus abordable à moteur avant?
Ouf! Ça me semble... Je miserais pas beaucoup, beaucoup sur la table pour ça, disons ça comme ça. Question rapide en terminant, Fred. Pour quelqu'un qui aurait un petit budget, mais qui veut absolument une Porsche, est-ce qu'on y va avec une Porsche à moteur avant ou avec une Boxster de première génération, par exemple?
Ben, c'est une bonne question parce que les Boxsters de première génération sont plus récentes, ben, veux pas.
Oui.
Puis ça commence à devenir des véhicules de collection aussi.
Tranquillement.
Donc,
hein?
Mais moi, c'est ce très abordable. C'est,
peu importe le modèle, on en a parlé un peu tantôt, assurez-vous d'acheter un véhicule qui a été bien entretenu au fil des ans. Parlez avec le propriétaire, demandez-lui les reçus d'entretien. Puis juste à voir l'état, je te dirais, du véhicule. Puis à parler avec le propriétaire, on sait un peu à quel genre de spécimen on a affaire. Il faut vraiment acheter un véhicule qui a été entretenu, puis la fiabilité à long terme va suivre.
Parce qu'une Boxster 97, 18, 19, ce sont des voitures plus solides et avec des pièces qui sont plus accessibles. 944, tu vas trouver des pièces, c'est pas pire. Mais 928, 924, 968...
Faut chercher un petit peu plus. Là.
Faut chercher, mais je te dirais que sur Internet maintenant, c'est pas... pour moi, ça n'a jamais été un gros enjeu.
Non, je sais. Sauf que une Boxster, tu vas trouver des pièces un peu partout, là, à faible coût. C'est des voitures beaucoup plus solides. C'est des voitures... T'auras pas de gros problèmes d'électricité ou trucs comme ça avec une Boxster, sauf si tu as...
C'est beaucoup plus moderne.
Sauf si tu as la mauvaise idée de jamais remonter le toit. Mais ça, c'est une autre affaire.
Mais si t'es un petit peu patenteux puis tu peux jouer dans ton auto, c'est moins facile avec une Boxster qu'un moteur central qui est à peu près inaccessible, sauf pour un mécanicien. Tandis qu'une 924 ou une 944...
C'est plus ouvert, là.
C'est ouvert, puis c'est de la mécanique quand même assez simple. Là. Fait que c'est... Je pense pas qu'il faut avoir peur de ces modèles-là, même si je suis d'accord avec toi, Antoine, que la Boxster qu'on a amenée au tournant des années 90, ben c'était un véhicule résolument plus moderne que la 968.
Un petit peu 40. Plus accompli, là.
Bon, ben Fred, écoute, je sais que tu es un gars occupé parce qu'il faut que tu retournes travailler sur ton Westphalia qui marche pas encore. je te laisse aller. Hein? Pardon?
C'était gratuit comme commentaire.
Ah, c'est pas gratuit parce que tu vas devoir payer des pièces encore et encore comme tu fais tout le temps. Alors, je te laisse retourner à tes basses besognes et nous, ben, on s'en va dans le troisième bloc. Salut, messieurs.
Salut, messieurs.
Merci, Fred.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Ces derniers jours, Antoine, tu as visité un concessionnaire Mazda et tu es arrivé à une conclusion que tu voulais nous partager.
Bien, en fait, oui, je savais que Mazda travaillait à redorer son blason, c'est-à-dire à rehausser son image de marque avec une nouvelle façon de vendre des véhicules, avec une nouvelle approche au niveau de la clientèle. Et oui, je suis rentré chez un concessionnaire Mazda cette semaine où j'ai été carrément ébloui par le travail qui avait été fait par cette concession-là, mais aussi par la gamme de véhicules. Et j'ai ainsi compris que le tournant qu'on essayait de prendre chez Mazda était réussi. Est-ce que à très long terme chez Mazda, ça va être viable financièrement? Est-ce qu'on va réussir ce mandat-là?
Au moins, on a l'audace de le faire.
Mais on a l'audace de le faire. Alors, oui, quand on regarde les chiffres de vente d'une Mazda 3 qui sont en chute libre depuis 3-4 ans, on fait « aïe aïe, ça doit faire mal ». Mais en même temps, j'ai compris qu'on n'avait plus l'intention de faire du gros volume comme on le faisait au milieu des années 2000 avec des Mazda 3
la protéger juste avant, là, c'était du gros volume.
Sans nommer la concession, là, pensez à Albi le géant. Là, on voyait des Mazda 3 argent avec le logo Albi partout en ville, partout au Québec. Pourquoi? Ben, ça coûtait rien. Alors, on vendait des Mazda 3 à prix à prix plancher. On acceptait de se garder 200, 300, 400 dans la transaction pour en mettre une de plus sur la route. Mazda a décidé de ne plus faire ce genre de transaction-là. Aujourd'hui, on veut vendre des voitures plus équipées, plus luxueuses, se garder de meilleures marges de profit et offrir un produit de bien meilleure qualité.
Voilà, et ça se remarque tout de suite.
Et ça se remarque tout de suite. Et ces véhicules-là gardent une meilleure valeur de revente en pourcentage aussi à la fin du terme. Donc, on est quand même capable de les louer à prix raisonnable, quoique plus cher que la compétition. Parce que si je compare avec les autres produits que j'ai regardés, à l'exception du RAV4, on est quand même plus cher. Plus cher qu'un Sportage, qu'un Tucson, qu'un CR-V. On est plus cher que le Nissan Rogue, évidemment.
Donc on ne joue pas la guerre des prix. Là.
On ne joue pas la guerre des prix, on ne veut plus la faire. Par contre, on mise sur l'expérience client énormément. On offre un produit de qualité. On ne veut plus vendre de versions d'entrée de gamme. D'ailleurs, les versions qui sont les plus vendues pour la Mazda 3, en fait, celle qui est la moins vendue, c'est le modèle GX.
Okay.
Alors, la plus vendue, c'est une GS avec un ensemble d'options. Ensuite, vient la GT. Tu peux départager là-dedans les versions en rouage intégral et la version GX, c'est la moins populaire. Puis ce que je trouve intéressant aussi, pourquoi je fais un parallèle avec Subaru dans mon article, c'est que Subaru est une marque qui est super viable financièrement. Crois-moi, les investisseurs s'arrachent les concessionnaires Subaru et on aimerait bien ça être capable de mettre la main sur une concession comme ça parce qu'elle est payante, parce qu'on a une clientèle qui est qualifiée.
Et qui est fidèle, là.
Qui est fidèle à mort.
Et là aussi, on ne joue pas sur la guerre de prix.
On ne joue pas la guerre de prix. On est très indépendant. Quand tu arrives au service, ça coûte un peu plus cher, mais la clientèle est satisfaite. Et n'oublie pas que la clientèle, quand je te disais que c'est une clientèle qualifiée, ben c'est-à-dire que c'est une clientèle qui souvent, ou plus souvent que la moyenne, va payer content ses véhicules, s'obstinera pas sur les entretiens qu'il y a à faire. On est content aussi de renouveler chez Subaru. On sait qu'on a une bonne valeur de revente, on est satisfait, mais c'est une clientèle qui est plus pragmatique. Là.
Tout à fait.
Alors, il y a des clients qui vont aller cogner à la porte de BMW, Mercedes, et qui n'auront pas nécessairement un sou dans le compte de banque, alors que d'autres vont arriver chez Subaru et vont faire 3-4 fois le salaire de la clientèle qui va chez...
Vont s'acheter un Outback content sans poser de problème.
Compliqué. Alors, c'est cette clientèle là, c'est de l'or en barre pour n'importe qui. Et c'est un peu ce qu'on vise avec Mazda, c'est qu'on veut rehausser le niveau de clientèle, rehausser l'image de la marque,
Et je pense qu'on est bien parti.
On est très bien parti. Puis l'autre parallèle que je fais, c'est qu'évidemment, ben, si t'as remarqué, il y a de plus en plus de véhicules Mazda qui offrent le rouage intégral.
Ben, en commençant
comme
par la Mazda
Subaru.
3. Voilà.
Ben oui, alors il y a que la Mazda 6 qui ne l'offre pas pour l'instant. C'est une question de temps lorsqu'on la renouvellera. Et l'autre parallèle que je fais avec Subaru, ben, c'est que et Mazda et Subaru partagent des technologies avec Toyota.
Voilà. Donc, tout est dans tout. Là.
Tout est dans tout. Donc, oui, au final, mon impression a été très positive en rentrant chez cette concession-là. Et j'ai vu d'un œil différent l'approche que Mazda tentait de prendre avec sa clientèle. Maintenant, on va voir si à long terme, ça va être viable parce que... At the end of the day, comme disent les Anglais, ben
faut payer les factures.
Faut quand même que tu en vendes des véhicules. C'est ça. Là. Puis évidemment, on est dans un marché qui n'est pas évident, où il y a une compétition très féroce. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines années.
Merci Antoine, bonne semaine.
Bonne semaine, à la semaine prochaine.
Cube Radio.